Voilà, moi, je suis heureux d'être parmi vous et pouvoir partager la suite de ce qu'on avait déjà vu. Vous ne vous en rappelez plus, c'est pas grave. C'est comment est-ce qu'on entend la voix de Jésus? Comment est-ce que finalement Jésus nous parle encore en 2024? Je vous avais mis ce verset de Jean 15, 26. L'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. C'est vraiment ce verset qui est un des piliers pour moi de finalement comment cet Esprit rend témoignage de Jésus concrètement. Parce que c'est des versets qu'on peut connaître, mais comment ça nous parle? Comment, d'une manière ou d'une autre, il veut rendre témoignage de Jésus, cet esprit qui est en nous, qui habite en nous. Et là, il est en nous, il est dans notre vie. Je ne sais pas comment il vous parle, concrètement. Alors, on a vu que, dans un culte précédent, qu'il nous assure que nous sommes aimés. On a vu qu'il était capable de nous convaincre de péché. Et véritablement, mon expérience de vie me montre qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre réellement de péché. J'ai vu tellement de gens, et moi-même, des fois, ne pas accepter d'être devant la réalité du péché, puis de dire non, c'est. Enfin, trouver plein de subterfuges, plein de raisons, plein d'excuses. Et un jour, le Saint-Esprit nous convainc, c'est juste tellement clair. Et ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est d'un renouvellement de notre pensée. Parce qu'il habite en nous, il doit renouveler notre pensée. Et comme on l'a vu, ce renouvellement de notre pensée, on va le voir au moins en partie aussi à partir de la rencontre de Jésus avec trois personnes, les trois dernières personnes qu'il rencontre avant d'entamer la Semaine Sainte à Jérusalem. Donc, trois personnes avec qui il a un entretien particulier, il a un rendez-vous particulier. Et on verra comment ces trois personnes ont leur esprit, leur pensée renouvelée. Alors je vous lis juste des extraits de Luc 18-19, c'est pour vous remettre en tête ces trois personnes. Alors un notable lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Donc le premier, c'est le jeune homme riche, en Luc 18-18. Après, on va voir Jésus qui a un petit aparté avec ses disciples. Et au verset 31, il dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, et on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort, puis le troisième jour, il ressuscitera. » Et au verset 35, chapitre Luc 18, c'est le deuxième personnage que Jésus rencontre. « Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. » Et c'est toute l'histoire de cet aveugle. Et le troisième personnage, c'est chapitre 19, verset 1. « Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs des impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. » Trois hommes interpellés par Jésus dans ces quatre domaines spécifiques. Et on verra ce matin pourquoi Jésus a pu renouveler leur pensée ou leur intelligence. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'être renouvelé dans sa pensée? Parce qu'on peut dire, oui, je suis convaincu par l'amour de Dieu, je suis convaincu de mon péché, j'appartiens à Dieu, c'est bon. Mais Dieu veut aller plus loin avec nous. Il veut nous renouveler dans notre pensée, dans notre intelligence. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre pensée, humainement parlant, notre pensée, celle qui est issue de ce monde, celle avec laquelle nous avons été créés, que nous avons récolté à notre naissance, qui a été influencé par la société, notre pensée n'est pas chrétienne. Et je crois que c'est important de le dire, fondamentalement de base. Comme notre nature n'est pas chrétienne, notre pensée n'est pas chrétienne. Et nous avons des pensées surtout, sur toutes sortes de choses qui nous, qui nous corrompent. Et je crois que nous devons faire attention à notre pensée. Nous sommes dans un temps d'élection, nous allons devoir bientôt voter. Et moi, je suis frappé de voir comment certains chrétiens peuvent affirmer des choses qui sont contraires à la pensée biblique. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes peut-être français, mais nous appartenons à notre royaume. Nous restons français, pas de souci, mais nous appartenons à notre royaume et notre pensée doit être la pensée de ce royaume. Et je crois qu'il est vraiment important de se démarquer. Moi, j'ai l'habitude de dire, je n'ai aucun parti politique avec lequel je peux être d'accord. Par des valeurs d'éthique, sur le début de vie ou la fin de vie, il y a plein de partis avec lesquels je ne suis pas d'accord. Par le soin qu'on doit apporter aux migrants, il y a plein de partis avec lesquels je ne peux pas être d'accord. Par l'amour qu'on doit porter à nos ennemis, il y a plein de partis avec lesquels je ne peux pas être d'accord. Alors, il faut faire un choix, je suis bien d'accord. Mais ayons une parole différente dans notre société. Ayons une pensée différente. Ne nous laissons pas corrompre par la pensée du monde. L'esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. Ne rapportons pas ce que le monde dit, mais rapportons ce que l'esprit nous dit. Nous ne connaissons pas la vérité de base. Nous devons apprendre cette vérité. Elle n'est pas innée. Elle n'est pas comme ça, elle ne nous tombe pas dessus comme ça. C'est un renouvellement complet de notre pensée qu'il est nécessaire d'avoir. Et l'esprit doit nous conduire dans cette pensée qui est différente de la nôtre, qui n'est pas notre pensée mais celle de Dieu. Et vraiment, l'esprit veut nous aider à nous transformer. Et c'est un long processus. Ne croyons pas que parce que nous avons donné notre vie à Jésus, que c'est réglé, que nous pouvons avancer dans ce processus facilement. Non, je ne crois vraiment pas. Et je crois que nous devons vraiment faire attention à ça. Et ce texte aussi qui dit « consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Consacre-les, ça veut dire que toute leur vie entière soit consacrée à cette vérité, à cette pensée de Dieu. Que tout ce qui nous imprègne soit consacré par ça. Ce n'est pas un petit défi. Nous sommes appelés à écouter l'esprit avec notre intelligence. Je vais peut-être vous surprendre, mais parce que notre Dieu est un Dieu intelligent. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi comme ça. Notre Créateur a créé un monde rationnel. Il l'a organisé de manière intelligente, infiniment complexe. S'il y en a un qui devrait avoir le prix Nobel de physique, de mathématiques, de philosophie et de tout ce que vous voulez, c'est Dieu. Et je suis sûr qu'il ferait tous les concours qui existent sur toute la surface de la Terre. Il est partout premier. C'est aussi ça l'intelligence, c'est très concret. Quand on dit l'omniscient, on voit un truc un peu vague et flou. Non, il serait premier partout parce que c'est le plus intelligent. La Bible nous a donné cette pensée qui est claire, qui est rationnelle. Depuis toujours, il y a un plan pour l'humanité. Cohérent, incroyablement intelligent, qui nous dépasse totalement. Et son but est de déjouer tous les projets de son adversaire. Et pour le comprendre, il faut faire appel à l'intelligence qu'il nous a donnée. Il nous a créé à son image, donc nous sommes aussi, nous avons une part de cette intelligence. Et parfois, on oppose la foi et la raison, mais ça ne s'oppose pas. L'Écriture ne les oppose pas. L'Écriture, elle oppose la foi à la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Souvent, on pense qu'on a besoin de, voilà, de réflexion divine, comme si Dieu devait décider à notre place pour tout, sans utiliser notre réflexion humaine. J'aime beaucoup ce psaume 32, versets 8 et 9, qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et là, on s'attend à ce que Dieu nous dise « Voilà, je vais te donner des songes, des rêves et tout ça. » Mais il dit au verset 9 « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. » Je vais te conduire, il nous dit, mais pas comme un mulet. C'est-à-dire par contrainte, car il n'est pas intelligent, en te mettant un mors pour te conduire à droite ou à gauche. Je vais te conduire, mais t'as pas de mors, t'as pas de bride. Je te laisse, avec l'intelligence que je t'ai donnée, faire des choix, prendre des orientations dans ta vie. Je t'ai confié une intelligence, nous dit Dieu, ben, c'est donc ce moyen que je vais utiliser pour te conduire. Ça veut pas dire que notre pensée est autonome. Ça veut dire qu'elle se soumet à l'intelligence de Dieu et qu'elle rentre dans cette intelligence de Dieu. Et ce qui habite notre intelligence va toucher notre conduite. Je vois beaucoup de personnes qui se débattent dans des problèmes récurrents. Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas une pensée juste ni une compréhension juste de Dieu. Et je crois vraiment que c'est ce qui elle peut-être la première cause de leurs échecs. Il y avait quelqu'un qui me disait, face à un homme de Dieu qui avait une grave maladie, il disait, c'est pas juste lui qui a tant servi Dieu qui tombe malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est injuste derrière. Si vous analysez la phrase, ça veut dire que Dieu est injuste si c'est pas juste qu'il tombe malade parce qu'il a tant servi Dieu. C'est une pensée fausse. Dieu est juste, parfaitement juste. Et même si je tombe malade, il est juste, et il reste juste. Autre chose qu'on peut se dire quand on entend ça, ça veut dire que je mériterais certaines choses, un peu comme le chouchou de Dieu, qu'il m'épargne certaines choses. J'ai aucun mérite, je ne mérite rien, tout est grâce. Vous voyez, dans nos réflexions, dans nos phrases, il y a souvent derrière une pensée qui n'est pas la pensée de Dieu, parce que nous n'avons pas réellement pris le temps de réfléchir à qui est Dieu, à ce qu'il dit. Et nous devons être vraiment attentifs à ce qui meuble nos pensées. Je vous lis ce texte de Philippiens 4, verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Quand nous avons une pensée qui vient dans notre tête, qu'est-ce que nous en faisons quand nous pensons qu'elle n'est pas digne de Dieu? Quand nous avons envie de faire une bonne phrase, un bon jeu de mots sur quelqu'un ou sur une situation, et vous savez ça que c'est pas forcément la meilleure chose à dire. Est-ce que vous résistez au plaisir de voir tous les gens autour de vous rire de ce bon mot? Ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être pas la meilleure chose à dire? C'est aussi dans ces choses très simples que Dieu veut intervenir. Donc, quand nous écoutons l'Esprit, écoutons-le avec notre intelligence, mais je dirais tout de suite que l'écouter avec son intelligence, ce n'est pas l'écouter sans cœur. Nous devons l'écouter avec notre cœur en même temps. On nous a souvent appris qu'il fallait connaître les choses en mettant de côté nos émotions, parce que c'est la manière d'être objectif. Au niveau de l'apprentissage des connaissances, c'est, je crois, largement remis en cause tout ça. Et nous pouvons être des chrétiens têtards à ce moment-là, c'est-à-dire avec une grosse tête seulement. Un christianisme cérébral qui a perdu la vie, ce n'est plus le christianisme. Ce n'est pas des chrétiens complets. Et la lecture biblique ne nous invite pas à séparer l'intellectuel du cœur. Elle nous fait juste comprendre que nous devons déjà traiter avec notre intelligence et ensuite ça descend dans notre cœur. juste ces quelques centimètres qui permettent que notre cœur, nos émotions soient touchées. Alors il y a de la place, il y a vraiment de la place pour les émotions dans l'expérience spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, mais il va répandre en nous l'amour de Dieu. Il ne parle pas qu'à notre intelligence, évidemment. Vous l'aimez sans l'avoir vu, nous dit Pierre. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Parce que ce qu'on a entendu de lui nous remplit de joie. Et c'est pour ça qu'il y a de la place pour lui dans le culte, au niveau des émotions, au niveau spirituel. Dans Hébreux 12, il est dit que nous nous approchons du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des dizaines de milliers d'anges en fête quand nous louons. Là, quand nous avons loué le Seigneur, nous avions les anges qui louaient avec nous. Et ça, c'est juste extraordinaire. Quand on réfléchit 2 minutes, et ça ne peut pas nous laisser de marbre. Il y a de la place pour l'émotion dans notre prédication, quand nous partageons l'Évangile. On ne peut pas faire appel qu'à un exposé qui travaille sur la raison. On ne peut pas être que cérébral. Quand Paul dit « nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu », il met toutes ses tripes. Il y a de la place pour les émotions dans notre vie. On a le droit de pleurer, on a le droit de se mettre en colère devant des situations injustes. Contre le mal. On a le droit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je crois que quand l'Esprit parle à notre intelligence, il stimule nos émotions. Les disciples d'Emmaüs, après avoir rencontré Jésus, vont se faire cette remarque « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Oui, notre cœur brûle. Vous savez, quand moi, mon cœur brûle le plus fort, c'est quand je travaille un texte biblique et j'ai passé 3-4 heures dessus, à creuser. Alors, il y en a d'autres, ils disent « ça t'assèche ». Non, moi, ça ne m'assèche pas. Ça me renouvelle. Ça fait brûler mon cœur. Et je suis là devant comme une merveille. Et je crois vraiment que ce que je reçois par mon intelligence peut venir brûler mon cœur. Alors, comment écouter ? La louange, je crois, est la manière dont nous répondons à l'amour de Dieu. La confession, c'est comment nous répondons à la conviction de péché. Et la méditation, c'est la manière dont nous allons développer la vérité dans notre esprit, dans notre cœur, en écoutant Dieu. Nous méditons. Si nous ne méditons pas, si nous ne prenons pas le temps de nous taire pour écouter ce que Dieu a à dire, et pour développer sa vérité dans nos vies, dans nos cœurs, Alors nous passerons à côté. Et pour prendre le temps de méditer, il faut ralentir le rythme, ralentir le pas et s'arrêter un moment avec Jésus. Et je dirais, pour un renouvellement de notre pensée, il faut renverser nos raisonnements. Nous avons vraiment besoin de renverser nos raisonnements. Nous renversons, nous dit Paul dans 2 Corinthiens, les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. En devenant chrétien, nous devons changer notre manière de penser, mais s'il vous plaît, ne pas arrêter de penser. C'est différent. Nous devons passer d'une pensée centrée sur nous-mêmes à une pensée centrée sur Christ. Si nous prenons l'exemple du jeune homme riche, c'était le chef d'une synagogue, il accourt vers Jésus, se jette à genoux devant lui, son désir c'est vraiment d'obtenir la vie éternelle car il a compris que ses richesses ne lui permettront pas d'avoir la vie éternelle. Il va dire à Jésus « bon maître » ou « bon enseignant ». C'est quelque part ironique parce que la suite du texte va nous montrer qu'il préfère garder ses richesses plutôt que de compter sur la bonté de Jésus et de le suivre. Et sa pensée à ce jeune homme riche, sa pensée réelle du monde, elle va être « Il vaut mieux être riche, riche pour assurer mes vieux jours que donner tout cela aux pauvres et compter sur Jésus. » Vous accepterez qu'on est tous à peu près dans cette pensée-là. Il est dit que lorsqu'il entendit la parole de Jésus, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ce jeune homme n'accepte pas de renverser son raisonnement, de renverser sa pensée et d'accepter la pensée de Jésus. Il y a un deuxième homme, c'est Zachée. Zachée, il est intéressant parce que c'est aussi un homme riche. Pas très différent, finalement, de ce chef de la synagogue. Et il avait le désavantage, en plus, d'être collecteur d'impôts, d'être corrompu, alors que le jeune homme riche n'était pas corrompu. Hein. Il avait franchement plusieurs problèmes à son actif. Lui va recevoir avec joie la parole de Jésus. Ses émotions vont être touchées, mais son intelligence aussi va être touchée. Quand il est invité par Jésus à descendre de son arbre, Jésus s'invite à manger chez lui, il y a un murmure d'indignation dans la foule. La foule dit « Il est allé loger chez un homme pécheur ». On imagine le murmure, on imagine ce qu'ils ont pu dire. Parce que Zachée, il a blessé du monde, parce que Zachée, il a lui-même été blessé et mis de côté. Et la réponse de Zachée, ça va être, littéralement le texte dit « Mais Zachée se tenant devant le Seigneur ». Lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple ». Sa première pensée, humainement parlant, c'est dire « Tous ceux qui murmurent, là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous êtes blessant, vous êtes mauvais avec moi, vous n'aurez rien. » Non, il ne dit pas ça. Il prend sa calculette, et il dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Déjà, j'ai une somme, paf, je donne la moitié. » Il prend sa calculette et reprend tous ceux qu'il a avec lesquels qu'il a trompé. Il fait fois quatre. Je leur redonne quatre fois ce que je leur ai pris. Zachée, c'est la joie et la compta qui se donnent la main. Ce n'est pas fréquent. Mais dans son cas, c'est ça. La première pensée qui est probablement venue à sa tête, il l'a chassée pour essayer d'avoir la pensée de Dieu. Il a pu le faire parce que le texte nous dit il s'est tenu devant le Seigneur. Pour que notre pensée soit renouvelée, nous devons nous tenir devant le Seigneur. Quel est notre référentiel? Quel est notre modèle? Lui qui aimait l'argent se rend compte que son amour pour l'argent l'a entraîné au vol. Il va se rendre compte qu'il ne fera rien de tous ses sous, qu'il vaut mieux apprendre à être juste et généreux. Au milieu de ce texte, je vous ai lu ce petit mot sur Jésus qui va annoncer ce qu'il attend à Jérusalem et comment il va être. Il va souffrir, mourir et ressusciter. Et vous savez, la pensée des disciples, ce qu'elle était, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée du Dieu auquel on croit. Parce que notre pensée humaine, c'est de croire que Dieu, avec Dieu, on n'aura jamais de problème. Qu'avec Dieu, on aura la victoire, mais la victoire d'un point de vue humain. On n'a juste pas compris que la victoire selon Dieu, ça passe par la croix. L'élévation de Jésus, elle passe par l'élévation sur la croix. Et que la victoire selon Dieu, elle va passer par des moments qui ne sont pas faciles. Sommes-nous prêts à accepter son chemin? Sommes-nous prêts à renouveler notre pensée? C'est vraiment la question que je me pose à moi. Et puis le dernier homme, c'est l'aveugle. Un homme qui mendiait assis au bord du chemin, un homme qui s'était arrêté de vivre, arrêté de travailler, un homme qui criait, assis au bord d'un chemin, en maugréant sur sa malchance. un homme qui demande de la pitié, un homme qui a un sentiment d'exclusion, de rejet, qui s'enferme dans sa souffrance, voilà ce qu'est l'aveugle. Mais aussi un homme qui demande à voir, parce qu'il ne voit rien, et qui va être guéri. Et dans Luc 18, 43, il a dit « Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. » Cet homme, il n'est pas que guéri de sa cécité. Lui qui était assis, il s'est mis debout. Il s'est mis à suivre Jésus. Lui qui criait, qui suppliait la pitié des autres, et qui s'enfermait là-dedans, s'est mis à louer Dieu. Il a changé son intelligence, sa mentalité. Lui qui se sentait exclu, mis de côté, à part, entraîner toute la foule à louer Dieu. Vous voyez le changement de mentalité? Et à nouveau, se trouve au cœur de cette rencontre, la joie de la rencontre avec Jésus. Parce que le renouvellement de l'intelligence, comprendre autrement ce qu'on a l'habitude de comprendre, procure la joie. Vous savez, je vais terminer par ça, nous avons beaucoup, beaucoup de pensées humaines dans notre tête. On peut, comme pour le jeune homme riche, penser que l'argent et les biens matériels apportent le bonheur. Voilà ce que dit Dieu dans sa parole. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Vous voyez que ce n'est pas très compatible avec la pensée humaine. Alors, je ne sais pas par ce qui vous touche particulièrement. Pour certains, c'est le sexe va apporter une satisfaction durable dans ma vie. Mes chers amis, nous répond Pierre, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Pour d'autres, ça, la nourriture, l'alcool vont me rendre heureux. C'est un des grands buts de ma vie. Moi, j'ai des gens que je connais, ils me disent, moi, mon but, c'est de faire les restaurants. Mon but, c'est... Il avait fait deux fois toutes les croisières qui existent sur la planète. Il me disait, je suis dégoûté, j'ai plus de but. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas à des ivrognes, ni à ceux qui aiment la bonne chair, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère. Ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. La Bible est concrète, hein ? Encore un exemple, profiter de la vie donnerait un sens à ma vie. J'ai quelqu'un, une fois, il me dit, un chrétien, il me dit, ah, j'ai mon meilleur ami qui est mort brutalement d'un infarctus la semaine dernière. Et j'ai compris que vraiment, il fallait que je change quelque chose dans ma vie. Puis il continue, il me dit, j'ai acheté un camping-car, il faut maintenant que je profite de la vie. J'ai rien contre les camping-cars. Mais je crois juste qu'il n'a rien compris, quoi. Hein? Et je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, c'est Jésus qui dit ça. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, c'est une parabole qu'il donne. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? C'est ce que Serge nous a partagé tout à l'heure. Ou bien alors on peut dire, et mon bonheur vient de la reconnaissance des autres. Et j'ai besoin de cette reconnaissance parce que je suis malheureux, parce que les autres ne me reconnaissent pas. Et Paul dit dans les Galates, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Mon péché n'a pas de conséquences dans ma vie. C'est Paul, pareil, qui est dans les Galates, qui dit « On récolte ce qu'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit, la vie éternelle. » Oui, il y a des conséquences au péché dans ma vie. Et cette dernière pensée, je peux être en compétition avec mon frère et ma sœur dans l'Église. Je peux voilà, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Et je veux que les autres fassent comme moi je pense. Et dans Philippiens, Paul nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ma prière, c'est que nous prenions le temps, mais vraiment le temps de méditer, d'écouter la voix de Jésus, à travers de sa parole, à travers de ce que le Saint-Esprit nous inspire. Nous écoutons avec notre intelligence que cette voix, cette parole, cet renouvellement de l'intelligence puisse descendre dans notre cœur et puisse changer nos paroles, puisse changer nos actes et puisse vraiment transformer nos vies. Seigneur, merci. Merci parce que seul toi peux accomplir ça dans nos cœurs. Et ma prière, j'en ai qu'une, c'est que rien dans mon cœur, dans ma vie, dans mon intelligence n'empêche ce renouvellement de ma pensée, de mon intelligence par ton esprit, Seigneur. Amen.